Vous réalisez ce à quoi on s'habitue? Au début, tous ces morts en mer faisaient les gros titres de la presse. Des journalistes venaient de l'Europe entière. Ils tournaient autour de mon étal en quête d'une bonne histoire. Je me souviens d'un gars qui voulait que je raconte l'odyssée d'un sahélien allongé sur un plateau de glace pilée, le visage encore masqué d'algues brunes. J'ai dit que j'en savais rien. Il insistait pour que j'invente n'importe quoi en agitant ses billets de 50 euros sous mon nez. Il était prêt à me payer pour mes bobards pourvu que ça fasse vrai. Je l'ai écarté comme une mouche à merde. Maintenant, les métiers s'en fichent de ce qui se passe ici. Il y a pas mal de temps qu'on n'a plus vu un reporter dans les parages. L'Africain en cadavre, ça fait plus recette. C'est à peine si on compte les noyés quand ils sont noirs. Absents des inventaires, ils sont devenus une sorte d'angle mort. Rien à faire, rien à dire. Sans se concerter, on a décidé en silence de devenir des monstres. C'est un extrait de La Pêche du jour, le texte si fort de mon invité. Comment aujourd'hui ne pas le citer ?
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est Claire Les Angles Morts, journaliste, ancien directeur du Monde, fondateur des revues Le 1, Zadig, mais aussi America, avec l'ami François Bunel. Il est aussi écrivain et on lui doit des textes aussi bien ancrés dans son histoire personnelle que dans le présent. Dans La Pêche du jour, ce dialogue actuellement mis en voix au théâtre du Rond-Point, il revient sur le sort de réfugiés et interroge notre humanité. Bonjour Eric Fotorino.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce que c'est un angle mort ? Au fond,
un angle mort, c'est quand il n'y a même plus les mots. C'est-à-dire que c'est le crime de silence dont parlait Mauriac. Un jour, c'est pas de trop parler qu'on nous condamnera, c'est de n'avoir rien dit.
Alors dans quelle mesure la mission de l'écrivain et du journaliste que vous êtes, c'est précisément d'éclairer ces angles morts, de combler par du langage ?
Ben, je crois que justement, ce qui moi me requiert, c'est de mener cette bataille des mots, cette bataille du langage, puisque précisément, à force de répétition, les mots se sont usés, les images se sont usées. On voit des cadavres, on voit des enfants morts sur des plages, on lit des tribunes, des pétitions, et puis rien, pas grand-chose. Ça, une petite émulsion dans l'eau et l'eau se referme, le trou se referme. Et je pense que mon rôle, pas seulement le mien, c'est justement d'éviter que le trou se referme. C'est de faire en sorte que, avec les mots, mais pas n'importe quel mot. Vous savez, j'ai une phrase de Colette en tête qui disait « Avec les mots de tout le monde, écrire comme personne ». Bien, je pense qu'à un moment donné, la force, c'est la forme. Et ce que vous avez lu là, je trouve ça violent. Mon texte est violent, j'ai pas pu le regarder pendant 2 mois. Il est sorti une nuit du mois de juin. Je savais qu'il était dans mon ordinateur et je ne l'ai pas regardé avant la fin du mois d'août.
Vous résistez, Eric Fotorino, à devenir un monstre, justement ?
Je pense que c'est une nécessité quotidienne. Il faut être en colère, il faut avoir du dégoût.
Mais comment fait-on, dans un contexte comme celui-ci, où toute l'attention est rivée sur l'Ukraine et non sur la Méditerranée, pour faire entendre ce qui ressemble dans votre texte à un cri pour dénoncer ce que vous appelez effectivement crime d'indifférence?
Vous savez, tout est lié. Ces migrants qui traversent la Méditerranée en 2015, ils sont venus par centaines de milliers, par millions même, au Liban, en Turquie, mais aussi en Europe. Ils fuyaient quoi ? Ils fuyaient les bombes russes qui tombaient sur la Syrie au secours du boucher Assad. Donc si vous voulez, on peut pas faire des tris comme on est en train de le faire en ce moment à la frontière ukrainienne, ce tri racial, comme si on inventait maintenant un racisme humanitaire où il y aurait les blancs bienvenus qui sont des réfugiés et les teintés ou les musulmans, les noirs qui seraient malvenus et qui seraient pas des réfugiés mais des migrants.
Oui. Oui, c'est cette petite rengaine dont vous parlez, qui revient de manière de plus en plus insistante et qu'on sera amené à entendre, à réentendre face au défi de l'accueil dans les prochains mois, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Qu'est-ce que ça trahit pour vous, cette rengaine du tri, de la sélection, de la distinction, Eric Fotorino ?
Pour moi, c'est la peur de l'autre. C'est la peur de l'altérité qui ne peut pas du tout faire survenir l'altruisme. Et puis, ce que précisément, on a construit l'imaginaire du migrant comme celui du terroriste, comme celui qui vient finalement ou nous tuer, ou prendre notre travail, ou violer nos enfants. Enfin, il y a un candidat à la présidentielle dont c'est le discours principal. Et si vous voulez, ce discours de la peur, il finit comme ça, par faire tache d'huile, même chez des esprits qui sont plus ouverts, plus éclairés.
Qu'est-ce qui vous fait peur, vous ?
Moi, ce qui me fait peur, c'est la connerie, mais la connerie méchante, c'est-à-dire effectivement, pour qu'on arrive finalement à dire ces jours-ci un député français, pour qui j'ai de l'estime pourtant, qui nous dit que cette immigration ukrainienne, elle sera de bonne qualité et on pourra en tirer profit. Donc il y aurait les bons
les
immigrants, les bons réfugiés et les mauvais. Ça, je trouve ça intolérable et c'est pour ça qu'il faut que nous, on sorte les mots, parce que c'est ce qui nous reste pour pouvoir contrecarrer, combattre cet aveuglement raciste.
Quel regard est-ce que vous portez, Éric Fotorino, vous qui avez été pendant de longues années grand reporter sur ce qui se passe en ce moment en Ukraine, pays auquel vous avez consacré votre dernier numéro de votre hebdomadaire, oui. Le 1.
Si vous voulez, moi, ce qui me fait très peur, c'est de voir que finalement, on a des grandes résolutions. Là encore, on dit des mots dans des tribunes. On a une ministre de la Défense qui vient inspecter les troupes en Roumanie. Mais toutes ces forces qui sont à la frontière, qu'est-ce qu'elles font concrètement pour empêcher que des gens meurent chaque jour en Ukraine sous le joug d'un fou? Gorgé d'orgueil, qui veut rétablir une sorte de grande Russie.
Oui.
Voilà. Et pour moi, on est dans des mots, là encore, mais là, des mots creux, puisqu'il n'y a pas d'actes derrière qui sont à la hauteur de l'événement. Les gens se font bombarder.
Mais quel événement? Quelles sont pour vous les racines profondes du conflit entre la Russie et l'Ukraine?
Je pense qu'il y a une histoire qui ne passe pas. Dans deux moments. Le moment de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qui fait dire à Poutine « dénazification », considérant qu'effectivement une partie du peuple ukrainien a pris le parti d'Hitler, mais pas parce qu'il était nazi, mais parce qu'il voulait qu'on le débarrasse de Staline, ce qui n'était pas exactement la même chose, même si bien sûr il y a des ultranationalistes ukrainiens. Et la deuxième chose, c'est 1991, où Vladimir Poutine considère que la fin de l'URSS s'est faite dans les pires conditions et que le peuple russe est le plus disséminé du monde. Donc il veut, comme on ramène un troupeau, il veut reprendre tout ce qui parle russe et qui est pour lui de culture russe, qui est la Russie, la Grande Russie.
C'est une histoire dans laquelle nous, à l'Occident, nous avons une responsabilité.
On a forcément une responsabilité puisque nous sommes ses voisins. Il faut faire la politique de sa géographie et de son histoire, partout, que ce soit en Russie, en Afrique ou ailleurs. Et notre responsabilité, elle est probablement d'avoir fermé un peu les yeux, de pas avoir voulu voir ce qu'on voyait.
D'avoir tardé.
C'est-à-dire, on voit un dictateur et on est en train de nous expliquer que c'est un nationaliste, comme il y a que tout le monde doit être nationaliste pour défendre sa patrie. Vous savez ce que disait Gary, le nationalisme c'est la haine des autres et le patriotisme l'amour des siens. Ben lui, il est dans la haine des autres.
Alors Éric Fotorino, l'Europe, quel rôle est-ce qu'il lui reste encore à jouer? L'Europe qui était au centre de la discussion que nous avons eue mercredi dernier avec le journaliste et écrivain Olivier Guèze. Je sais que ça vous passionne, ça.
Oui, bien sûr, parce que cette Europe, elle n'a pas jusqu'à présent créé un sentiment d'appartenance. C'est plutôt un sentiment d'égoïsme. Vous savez, c'était De Gaulle. Au banc des grandes nations, j'ai toujours rencontré les égoïsmes. Bah, l'Europe, c'est ça. On est d'abord français, d'abord allemand, d'abord anglais, ils sont partis, avant d'être européens. Et je pense que c'est l'inversion des facteurs qu'il faudrait arriver à faire. C'est-à-dire se dire, on est d'abord des Européens.
Demain. Dans un contexte de guerre, avec toutes les incertitudes que ça implique, qu'est-ce que ça représente, le mot « demain » pour vous, Éric Fotorino?
Quand j'étais jeune journaliste au Monde, on disait « demain est un autre jour ». C'était une manière de dire « on va prendre toute la peine du jour et puis on verra demain ». La difficulté, c'est qu'anticiper demain est quelque chose qui doit nous requérir à chaque instant, parce que sinon demain, on va se le prendre sur la figure.
Celle qui compte bien être là demain, vous la connaissez, c'est la culture et son actualité plus que jamais fidèle au poste. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 7 mars ? Dans un communiqué, l'UNESCO exprime ses craintes quant aux dommages que la guerre pourrait entraîner sur les patrimoines culturels ukrainiens. 7 sites sont inscrits au registre de l'Agence culturelle des Nations Unies, parmi lesquels la cathédrale Sainte-Sophie de Kyiv ou le centre historique de Lviv. L'UNESCO a déjà condamné les dégradations occasionnées par les bombardements sur des infrastructures d'enseignement, notamment la grande université de Karazin à Kharkiv.
And the Spirit Award for Best Director goes to Maggie Gyllenhaal.
Bon Esprit, la cérémonie des Spirit Awards qui récompense le meilleur du cinéma indépendant américain s'est refermée cette nuit sur le sacre de The Lost Daughter, le premier film de l'actrice Maggie Gyllenhaal, adapté du roman d'Elena Ferrante. Le long métrage rafle 3 récompenses, dont celle du meilleur film et de la meilleure réalisation. Côté étranger, c'est Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi qui s'impose devant notamment Petite Maman de la française Céline Sciamma.
Quand on vient de nulle part, on rêve. Et je pense que le rêve, c'est peut-être le côté fondamental de notre travail.
Le roi Albert, le palais Galliera à Paris, rend hommage au couturier Albert Elbaz, disparu en avril dernier. Dans l'exposition Love Brings Love, le musée propose de découvrir les créations imaginées par une quarantaine de designers à l'occasion d'un défilé hommage présenté en octobre 2021 au programme. Des silhouettes signées Gautier Galliano ou Donatella Versace pour célébrer la haute couture et l'amour façon Elbaz, cœur avec les doigts. Et enfin, pas de chapeau rond, mais un ticket pour l'Eurovision. C'est donc le groupe breton Alvan et Aez qui a été choisi samedi soir pour représenter les couleurs de la France lors de la finale de l'Eurovision en mai prochain à Turin. Joyeux mélange entre le fest-noz et l'électro. Leur morceau 100% breton Felen peut se traduire à la fois par petite fille ou étincelle, parfait pour mettre le feu au Goncourt. I'm agree. Et l'écrivain et journaliste Éric Fotorino, invité de Boomerang ce matin pour La Pêche du Jour, un dialogue qui se dit actuellement au Théâtre du Rond-Point, un texte qui fait écho à la tragédie continue de ces hommes et de ces femmes qui se noient en Méditerranée. Quand vous regardez cette mer, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui vous apparaît, Éric?
C'est-à-dire que, pour ce qui me concerne, la Méditerranée, elle m'a traversé avant que je la traverse, puisque j'ai des origines qui viennent du Maroc, de la Tunisie, de la Sicile. Donc c'était ma mère, la Méditerranée, d'une certaine manière, sans jeu de mots. Et aujourd'hui, c'est devenu un cimetière, c'est devenu une sorte de catafalque noir. Il n'y a plus de bleu dans la Méditerranée, il n'y a que du noir. Et ça, je pense que de s'habituer à ça, de se dire finalement c'est comme ça, de laisser la mer faire le boulot, je trouve que c'est une des plus grandes monstruosités de notre époque.
En vous écoutant, je réalise que vous ne cessez d'interroger ces notions de racines, d'enracinement, de déracinement dans vos livres. Que ressent un individu lorsqu'il est déraciné?
Je pense qu'il ne sait plus qui il est. C'est le drame des migrants. C'est qu'à un moment donné, ils ne partent jamais par désir. Ils partent parce que c'est une question de vie ou de mort. Et donc, ils emportent avec eux des souvenirs, une terre, des visages. Mais c'est terminé. Dans ce texte, le dialogue entre le pêcheur et ce client, le pêcheur dit qu'à un moment donné, il se brûle le bout des doigts avec à la flamme d'un briquet pour effacer les sillons et les frontières qui portent au bout des doigts pour qu'il n'y ait plus d'empreintes.
Quand on est déraciné pour toujours.
Je pense qu'on peut se réenraciner autrement. Beaucoup l'ont fait par l'écriture. Vous voyez Atik Raimi, qui a fui l'Afghanistan. Il s'est réenraciné dans une langue et dans une œuvre. Il n'empêche que, oui, il y a toujours un morceau d'exil qu'on trimballe et qui fait que, comme disait Michaud dans Équateur, j'ai un petit trou dans la poitrine et il souffle un vent terrible.
Et vous, Éric Fotorino, vous n'avez rencontré votre père biologique qu'à l'âge de 17 ans et c'est la découverte d'un livre de Patrick Modiano, Rue des boutiques obscures, oui, qui vous a donné envie d'aller à sa rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je lui ai dit d'ailleurs un jour à Patrick, je lui ai dit j'écris parce que vous m'avez donné l'autorisation. Il s'est passé que j'avais 17 ans, j'ai vu un homme qui en avait 40 et qui était mon jumeau avec des cheveux blancs à l'époque, je pensais qu'il était très vieux. Et finalement, je pense que ce n'est pas cette rencontre qui a été déterminante. Ce qui a été déterminante, ça a été ce que j'en ai fait après. C'est-à-dire que j'avais le sentiment, sans pouvoir comprendre pourquoi, que j'étais au-dessus d'un gouffre et que j'allais tomber dans ce gouffre. Et plus je vieillissais, plus je me disais que je ne savais pas qui j'étais. Et c'est parce que j'ai, au-dessus de ce gouffre, tiré le fil des mots, le fil de l'écriture, que j'ai marché dessus comme un funambule depuis plus de 30 ans, que je me suis inventé une vie qui correspondait à peu près à la mienne.
C'est beau parce que, quelque part, cette rencontre naît de la littérature, oui, et produit de la littérature. Que vous apportent les livres, au fond?
Les livres, ils m'apportent un sens, évidemment, à ma vie, mais quand je dis un sens, c'est pas avec un grand mot, c'est qu'est-ce qui fait qu'une journée est une vraie journée vécue? C'est pas tant que je suis allé pédaler, mais c'est parce que j'aurais écrit ou j'aurais lu. Donc, j'aurais rêvé un livre ou un livre m'aura fait rêver.
Et dans quelle mesure, et je le dis d'autant plus fort que j'ai lu votre livre La pêche du jour, l'écriture a-t-elle quelque chose à voir pour vous avec le cri, Éric Fautorino?
C'est vrai que dans écrire, il y a toutes les lettres du mot crier. Et d'ailleurs, on m'a fait remarquer un jour qu'il y avait aussi mon prénom. Mais c'est vrai
que... Une personne bien intentionnée.
Oui, très bien intentionnée. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un cri silencieux. C'est-à-dire, c'est ceux qui font le plus de bruit. C'est-à-dire que c'est ceux qu'on peut intérioriser, qu'on peut trimballer avec soi sans que personne ne voit rien.
C'est la phrase de Duras. Écrire, crier son bruit.
Voilà.
On va reparler en tout cas d'écriture, de cris, de mots, de traversée juste après Jimmy Cliff. Many Rivers to Cross en 69, vous êtes sur France Inter avec Éric Fautorino, vous écoutez Boomerang. Évidemment.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Un visage apaisant et familier, quelque part entre Boris Cyrulnik et David Fuenkinos, en fait. La lunette humble et sérieuse, le sourire affable et l'œil vif d'épervier, tout en pull camionneur ce matin, Éric Fautorino, invité de Boomerang pour parler du présent par le prisme de la littérature, mais aussi de l'information, puisque vous êtes, je le rappelais tout à l'heure, à la tête de l'hebdomadaire Le 1 et du magazine Zadig. En temps de guerre, quel rôle joue l'information, Éric?
Alors, c'est vrai que c'est le moment où elle est à la fois la plus fragile et la plus nécessaire. La plus fragile parce que le journaliste peut mourir. J'ai dirigé le service des reporters au Monde et quand j'envoyais quelqu'un en Irak, je me souviens de Patrice Claude et d'autres, j'avais toujours peur de les envoyer mourir, en fait. Et en même temps, eux voulaient y aller et ils y allaient. Donc c'est fragile, c'est nécessaire. C'est le moment du lien entre ceux qui souffrent et ceux qui voient les autres souffrir et qui veulent savoir comment ils souffrent. C'est un moment où la propagande doit être mise le plus loin possible de nos oreilles et de nos yeux, et
alors,
c'est difficile.
C'est intéressant parce que l'information, on le voit en Russie, est de plus en plus sous contrôle. Vendredi, une loi visant à punir toute personne qui tiendrait des propos discréditants. L'action militaire menée par le Kremlin a été votée. En quoi une guerre se joue-t-elle aussi sur le plan de l'information, justement?
Ben, c'est parce que, regardez les chiffres des morts des soldats russes ou des civils ukrainiens qui s'arment. On voit bien que la bataille, elle est là, dans les chiffres, combien? Je pense que la guerre, c'est à un moment donné, un état-major qui est, aux ordres évidemment de politiques qui ont des visées quelquefois très contradictoires et très discutables, de montrer qu'on est les plus forts. Et on n'est pas seulement les plus forts sur le terrain, on essaie de l'être par la parole, par les chiffres, par la propagande. Et c'est en ça que notre métier est un métier, je pense, qui a une incroyable nécessité.
Mais menacé, ici, très clairement. Quelles conséquences peut-on imaginer à une loi comme celle que je viens d'évoquer? Qu'est-ce qui est à craindre, en fait, Éric Fautorino?
Vous voyez, Augustin, tout à l'heure, on parlait des mots, on parlait de qu'est-ce que c'est qu'une dictature. Mais on voit ce que c'est qu'une dictature. C'est le moment où le réel n'existe plus. Le réel, il est refaçonné selon les visions folles et délirantes de celui qui détient non seulement un pouvoir qui peut être légitime, mais aussi la force. Et là, je pense que la légitimité de la force est mise en question pour tout un peuple et pour tout un continent qui est le continent européen.
Vous savez, c'est intéressant de voir la manière dont le président Poutine emploie cette expression « information mensongère ». Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? À l'heure où circulent ici en France, sur Internet, sur les réseaux sociaux, des théories qui visent à justifier l'invasion russe et qui, du même coup, discréditent le travail des journalistes, des médias dits traditionnels.
On a vu ça, évidemment, aux États-Unis, oui, dans le mandat trumpiste, où il y avait une autre réalité. C'est-à-dire, comme les faits n'existent pas, il y a du rouge dans votre studio, je vais vous dire non, c'est noir. Et je vais vous soutenir que tout est noir dans votre studio rouge.
D'ailleurs, Donald Trump employait le mot fake news, plus
bien
souvent
sûr,
qu'à son tour.
Bien sûr. Et il disait même que des médias étaient des fake news. Ils ne diffusaient pas ils en étaient.
You are fake news.
You are fake news. Donc, si vous voulez, moi, ce qui est terrifiant aujourd'hui, avec les moyens de la technologie, c'est que vous pouvez inventer, y compris en vidéo, y compris en son, une information qui n'existe pas. Et ça, je pense, c'est le défi le plus grand qu'auront les grands médias à affronter dans les années qui viennent. C'est une technologie qui peut vous inventer un attentat n'importe où dans le monde, comme s'il avait existé, créer des réactions, des représailles, alors que cet attentat n'a pas eu lieu.
Donc cette méfiance vis-à-vis des médias, vous l'expliquez aussi par des avancées technologiques, en fait?
Je pense qu'en tout cas, elle permet à ceux qui sont d'abord des manipulateurs de disposer d'outils. Comment vous allez voir spontanément, j'allais dire instantanément, qu'une vidéo est fausse? Et ça, je sais que les grands rédacteurs en chef de tous les États-Unis se sont réunis l'an dernier pour un colloque qu'ils ont tous les ans. Et ça a été le sujet principal. Comment va-t-on réagir devant des images qui sont fausses?
Alors vous, précisément, comment est-ce que vous y répondez à la tête de vos revues?
Alors, évidemment, nous, on est des revues qui ne sommes pas dans le chaud, dans le brûlant, dans l'immédiateté. On essaie justement de prendre ce recul pour expliquer.
C'est peut-être un moyen, justement.
Voilà.
Ça.
Pour moi, si vous voulez, comme vous savez que je suis cycliste, je me mets un casque sur la tête. Je pense qu'il faut mettre des casques sur la tête des enfants. C'est-à-dire qu'il faut leur protéger la tête. Et leur protéger la tête, c'est les éduquer de telle manière qu'ils sachent qui leur parle, qui les informe, qui les désinforme, qu'est-ce que c'est que l'esprit critique, qu'est-ce que c'est que le recul. Et ça commence à l'école, pas à 10 ans ou à 12 ans, ça commence dès le moment où on va se sociabiliser avec d'autres. Apprendre à décoder des images, il y en a partout dans la rue, il y en a partout sur les écrans. Pour moi, c'est l'école, c'est l'éducation. On est très loin de ce qu'on devrait faire sur cet apprentissage du réel à travers ces expressions imagées.
Particulièrement en ce moment, vous nous avez écrit un texte, Éric Fautorino, et j'aimerais bien que vous nous le lisiez.
Je ne vais pas vous parler d'Ukraine. Un mot qui commence comme uchronie et qui finit par haine, comme si la haine devait finir. Je ne vais pas vous parler d'Ukraine car il faudrait dire ces mots qui heurtent le silence, la bonne ou la mauvaise conscience. Guerre, invasion, agression, bombardement, frappe chirurgicale, tiens donc, sur des hôpitaux, sur des malades, sur des enfants brandissant des panneaux « Stop the war ». Il faudrait dire la super impuissance des superpuissances. Notre paralysie, les bras désarmés de l'Occident, car ni l'OTAN, ni l'Europe, ni l'Amérique n'ont mandat pour sauver l'Ukraine, et encore moins les Ukrainiens. Alors, pas question dans ces 2 minutes chrono de vous parler d'Ukraine qui rime avec peine, avec sirène, avec obscène. Il faudrait sinon regarder en face le passé qui fracasse le présent. Colonne de chars, peur qu'il soit trop tard, ou casse du Kremlin qui de l'Ukraine veut faire son écrin. Corps de civils sans vie, ensevelis dans la neige immaculée, froid des tranchées, image d'un autre âge, image d'un outrage. Ce matin, la terre n'est pas bleue comme une orange. Le fond de l'air a des reflets nucléaires. Et un gogol aux yeux vitreux voudrait changer Marioupol en milliers d'âmes mortes. Alors plutôt parler du printemps qui vient doucement. Mais ce mot de printemps a un petit air de Prague, vous ne trouvez pas? Et revoilà les chars russes, et revoilà l'Ukraine, tel le sparadrap du capitaine Haddock. Nous voilà donc de beaux draps. Rien ne va plus. Ma vision se trouble. Tout à l'heure, marchant jusqu'à vous d'un pas tranquille, Augustin, j'ai vu la tour Eiffel, les quatre fers en l'air, et la maison ronde de la radio qui ne tournait plus très rond. Mauvaises ondes. Fallait-il que jusqu'ici, sous le pont Mirabeau, coule la haine? Cette fois, c'est promis, je ne vous parlerai pas d'Ukraine. Croyez-moi sur parole. C'est vrai, ça craint l'Ukraine. Rien qui craigne plus que l'Ukraine. J'en ai même entendu qui prononce Ukraine. Mais voilà que le sablier a mitraillé ma carte blanche, blanc comme neige, maculé du sang des innocents. Et l'Ukraine, que je m'étais juré d'éloigner de ce micro, me revient en pleine tête, comme un boomerang.
Eric Futorino, au fond, c'est la question que je vous pose depuis le tout début de cette émission. Est-il seulement possible de parler d'autre chose que d'Ukraine ?
On ne peut pas, et le pire, c'est pas tellement d'en parler, c'est de ne pas en parler, mais d'y penser tout le temps. C'est-à-dire qu'elle imprègne par ce qu'on voit à chaque minute, c'est-à-dire des familles, des civils qui se font tuer parce qu'ils veulent s'enfuir, des gens qui veulent vivre en paix et qui voient le cauchemar dès qu'ils ouvrent les yeux, et que nous sommes là impuissants. Je veux bien qu'on livre effectivement des armes, qu'on fasse, qu'on ait des aides qui s'acheminent vers l'Ukraine, mais il n'empêche, qu'est-ce qu'on va faire sur cette colonne de chars qui est là comme un gros bourdon qui s'avance doucement et qui va raser Kiev. On va laisser raser Kiev parce qu'on ne fait pas partie, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, alors on va laisser faire. Moi, je pense qu'il y a là une impuissance et une colère qu'il faut garder pour peut-être à un moment donné agir.
À quel moment historique est-ce que vous avez le sentiment d'assister au moment où on parle?
J'ai l'impression qu'on est montée dans la machine de Jules Verne, là, du machine à remonter le temps, mais simplement, elle va pas nous déposer au meilleur endroit. Elle va nous déposer au moment où on se met à genoux. Et qu'est-ce qui fait qu'on va être debout?
C'est une histoire de vieux monde.
Oui, c'est une histoire de monde archaïque. Mais vous savez, l'archaïsme, il est partout. On parlait des réfugiés de Méditerranée. Vous savez qu'aujourd'hui, pour bien vérifier que ce sont pas des enfants qui sont majeurs, on applique un test des années 30, qui s'appelle Gründlich et Peil. On prend la main gauche et le poignet et on regarde si l'ossification s'est faite pour savoir s'ils ont moins de 16 ans, plus de 16 ans, plus de 18 ans. Donc on est dans un monde d'archaïsme où on va quelquefois chercher le pire de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a connu, dont on avait cru qu'on pouvait tirer la leçon.
Et qu'est-ce que vous ressentez, vous, journaliste, écrivain, citoyen, personne, face à cette histoire en train de se faire, un sentiment d'impuissance?
Oui, et puis de honte, en fait. C'est-à-dire que, voilà, on fait nos tribunes, on se parle, on parle, Augustin, ce matin, et il faut parler. Mais en même temps, on se dit que on est comme la mouche derrière la vitre, c'est de l'autre côté que ça se passe, et on voit tout, mais enfin, on est protégé par la vitre.
Qu'est-ce qu'on fait face à la honte, en fond?
Face à la honte, on essaie de vivre, c'est-à-dire, on essaie là où on est de d'apporter une prise de conscience, c'est ce que je fais avec mes pauvres mots, j'allais dire. Mais on se sent quand même bien, bien impuissant.
Merci infiniment, Eric Futorino, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que La Pêche du Jour, votre nouveau livre, est publié aux éditions Philippe Ray, qu'il est porté actuellement et jusqu'au 26 mars sur la scène du Théâtre du Rond-Point par les voix de Jacques Weber et Lola Blanchard. Tout de suite, les médias et le retour tant attendu de Sonia De Villard qui nous parle dans l'instant M, justement, de manipulation de l'opinion sur les réseaux sociaux. Ça va être passionnant et c'est juste après ça. La femme va. Il est 9h40, non 9h39, vous voyez comme je suis en avance sur France Inter. Sonia De Villers, une fois n'est pas coutume, l'instant M. Quelle joie de vous revoir, de vous réentendre Sonia.
Merci Augustin, et puis à demain pour un nouveau boomerang.
Évidemment.
Salut.
Salut.